Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Diwa, 107.5 FM. Nous sommes aujourd'hui avec Véronique Giraud-Dallemant. Donc vous êtes coordinatrice du planning familial en Rhône-Alpes.
C'est ça.
Vous venez aujourd'hui nous parler du planning familial, justement. On va commencer en parlant histoire. Donc l'histoire du planning familial, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ?
Déjà, il faut s'imaginer une société tout à fait différente il y a 60 ans, où prendre un contraceptif était pénalisable. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Donc on imagine bien les IVG, c'était quelque chose encore pire. Et le planning est né dans cette mouvance-là, à partir de femmes et d'hommes, parce que c'était très très mixte au début de l'histoire du planning, qui se sont élevés contre ces lois-là. Moi, j'ai tendance à dire que le planning a toujours fonctionné hors la loi, avant la loi. Fonctionné hors la loi pour la faire avancer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à l'initiative d'un certain nombre de personnes, ils ont créé une association en 1956, le 8 mars 56 exactement, la date est symbolique, qui s'appelait Maternité Heureuse. Fallait trouver un nom, on va dire, qui a été dès 60 rebaptisé Mouvement français pour le planning familial parce que à cette époque-là, elle a adhéré au planning international et que le nom Maternité Heureuse n'était pas très pertinent. Donc elle a changé de nom à ce moment-là. Mais les hommes et les femmes qui ont créé cette association l'ont créé vraiment pour faire avancer les lois et permettre aux couples, aux femmes, aux hommes d'avoir des interlocuteurs, de pouvoir poser des questions autour de des questions de sexualité. Et il se trouve qu'en Rhône-Alpes, on a le berceau du planning et des premières permanences au public. Et c'était à Grenoble en 1961. Et l'équipe de Grenoble, donc la section grenobloise, puisqu'à l'époque il y avait deux lieux, il y avait Paris qui recevait du public et Grenoble, faisait par exemple, alors ça se faisait même localement à Grenoble, fabriquer des contraceptifs en cachette. Alors on faisait importer au début d'Angleterre via des pare-chocs de voiture, des tubes de crème pour le jour, enfin bon voilà, il y avait toutes sortes de techniques pour passer en fraude. On imagine aujourd'hui. Passer en fraude des contraceptifs, quoi. C'est vraiment, c'est tout à fait un autre temps. Pour permettre aux couples, justement, de vivre une sexualité un peu plus sereine. Et puis très très vite, les gens sont venus poser des questions autour de la contraception, leurs histoires de couple. Et ça s'est développé très très rapidement. Et tout en ayant aussi, ces personnes qui avaient fondé cette association, une action auprès des pouvoirs publics pour faire avancer les choses. Donc ça s'est fait petit à petit. Il y a eu la loi 67. Qui était la loi sur la contraception de Lucien Neuwirth, et puis 74-75, les lois sur l'IVG, avec justement Simone Veil.
Alors en 67, vous parliez d'une loi qui autorise la délivrance de contraception, mais il me semble que c'était encore considéré comme un délit à cette époque-là.
Oui, c'était encore considéré comme un délit, et en plus c'est une loi qui a été très partielle, parce qu'elle a dépénalisé la contraception, mais ne l'a pas organisée. C'est-à-dire que, voilà, encore aujourd'hui, on pêche à ce niveau-là. On est obligé de créer toutes sortes de lois pour permettre l'accès à la contraception, alors que d'autres pays l'ont pensé dès le début. Ça fait partie des choses primordiales, essentielles, de l'accès à la contraception. Ça paraît tellement évident, mais voilà, ça ne l'était pas.
Tout à l'heure, vous parliez de peines qu'on pouvait encourir si jamais on utilisait de la contraception ou si on faisait un IVG. Alors j'aimerais bien rappeler quand même qu'en 1943 encore, une femme s'est fait décapiter parce qu'elle a décidé d'avorter durant la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça.
Donc c'est pas si loin que ça.
Non,
et en même temps, il y a le contraste, il s'est passé plein de choses. Il y a
c'est
eu plein
ça.
De lois, énormément c'est de ça. Mouvements.
C'est ça. Ça a été très très, enfin très vite. Oui, tout est relatif, mais c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps. On va dire que moi, c'est la génération de ma grand-mère qui était dans ce cadre-là, qui vivait dans ce cadre-là extrêmement pénalisant. Et les choses après se sont... Alors d'abord, nous, on est un mouvement qui est assez organisé. On est partout en France. Et c'est vrai que toutes ces années-là, quand on regarde les images d'époque, il y a énormément de manifestations. Il y a énormément de revendications assez énergiques. C'était vraiment des luttes. Il y a tous ces mouvements de femmes qui se sont créés aussi à cette époque-là. Vous avez le MLF, il y a eu le MLAC, qui est l'association justement pour la libéralisation de la contraception et de l'avortement. Donc tous ces gros mouvements ont drainé derrière eux énormément de gens. Et c'est aussi sans doute ce qui a fait avancer les choses.
Très bien. Vous parliez de la loi New Wirth, il me semble, tout à l'heure. Ouais, New Wirth, oui. C'est ça, qui autorise donc la fabrication et la délivrance sous ordonnance, encore une fois. Mm-hmm. Ça a été dépénalisé en 1982, c'est quand même oui. assez contradictoire. Ouais.
Ouais. On entraîne des vieilles lois qui servent à rien.
Ça veut dire aussi qu'on maintient dans l'état d'esprit que c'est quand même quelque chose qui est interdit de base.
C'est ça. En même temps, les femmes, ça fait quelques années à peine que la loi sur le port du pantalon a été abrogée. Hein. Donc,
c'est
nous
exact.
Étions toutes hors la loi. On traîne effectivement des vieilles lois qui rendent effectivement l'image que la contraception, c'est un truc qui est limite. Et j'ai regardé là, il n'y a pas très longtemps des images d'archives, c'était 66, où les médecins hommes, évidemment, hein, c'était rarement des femmes, expliquent qu'effectivement, on connaît la pilule, on sait que c'est efficace, etc. Mais ça a tellement d'effets secondaires qu'on ne peut pas se permettre de les mettre en vente, quoi. C'est pas possible. Waouh. Quand D'accord. on entend des choses pareilles, on se dit, bon, ok, c'est un autre monde, quoi. C'est vraiment un autre monde.
Et donc, il me semble, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des pays qui étaient beaucoup plus en avance que nous, comme l'Angleterre, ouais, par exemple, où il y a eu... par le planning familial, des voyages qui ont été organisés.
Pour les avortements, l'Angleterre, il y a eu énormément, énormément de voyages. Il y avait des bus qui partaient avec des femmes qui souhaitaient avorter et qui le faisaient à l'étranger. Et quand Simone Veil, elle a présenté sa loi, et en particulier sur son discours au Sénat, donc elle l'a présenté et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mmh. Et dans le discours du Sénat, elle rappelle ça. Elle rappelle qu'à cette époque-là, avoir une grossesse non désirée, les femmes étaient très, très inégales. Face à ça. Donc il y avait celles qui n'avaient pas de moyens et c'était les plus pénalisées puisqu'elles devaient avoir recours à des avorteuses. C'était clandestin, c'était pas forcément fait dans des conditions d'hygiène correctes. Parfois certaines femmes en mouraient, d'autres étaient mutilées, étaient stériles, ça les rendait stériles. Et puis il y avait celles qui avaient les moyens. Et celles qui avaient les moyens, en fait, elles partaient à l'étranger dans des cliniques, donc elles étaient dans un cadre hospitalier. Et Simone Veil a rappelé que même si c'était un cadre sécurisant, ça restait quand même quelque chose de clandestin et qu'on n'a pas le droit de faire vivre des choses pareilles à des femmes. On n'a pas le droit.
Tout à fait. Il me semble aussi qu'il y a eu des IVG clandestins dans les premiers plannings familiaux quand c'était pas encore...
partout.
Partout. Et donc, est-ce que le planning familial avait, eux, les ressources suffisantes
pour les faire
les faire, voilà. Au niveau
évidemment.
Hygiène
Oui, alors c'est ce qui se passait. Alors ça s'est passé en région Rhône-Alpes. Il y a des dizaines et des dizaines de lieux qui servaient à pratiquer des IVG. C'était des appartements, hein, principalement, qui étaient loués par des particuliers. Et les IVG se passaient avec des médecins militants, qui étaient accompagnés, ce que nous on appellerait, qui sont devenus aujourd'hui des conseillères conjugales et familiales, mais c'était des animatrices, c'était des militants du planning, des militants et militantes. Ça se pratiquait, oui, voilà, c'était des salles d'opération clandestines, en gros. Et il y en a eu absolument partout.
Il y a eu un très très grand parcours jusqu'au moment où l'IVG, ou même la contraception en général, a été remboursée par la sécurité sociale. Et c'est encore, il me semble que c'était il n'y a pas si longtemps qu'ils ont dit que ça allait être pris en charge à 100%,
ouais.
C'était en 2007.
Alors pour dire à quel point c'est récent, c'est-à-dire que le 1er avril prochain, qui est le jour où nous fêtons nos 60 ans à Grenoble, donc c'est une journée dédiée à cet anniversaire, c'est ce jour-là que le décret d'application du remboursement global et total de l'IVG va sortir. C'est-à-dire qu'il aura fallu attendre de 1974 à 2016 pour qu'enfin l'IVG soit totalement, totalement remboursé.
Donc c'est une lutte qui dure.
Le parcours est long.
Ouais.
Le parcours est très long. Tout ça s'est fait progressivement. Évidemment, nous, à chaque fois que la loi sortait, il y avait tous ces à côté qui étaient essentiels et l'argent reste un élément majeur pour les femmes. Donc on s'est aussi mobilisé beaucoup avec d'autres mouvements de femmes et d'autres mouvements tout court, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que des associations féministes, autour aussi des lois sur le remboursement. Et ça s'est fait, comme vous dites, sur 40 ans, quoi.
Ce
y compris pour la
long.
Contraception.
Et ce qui est quand même long.
Et ce qui n'est pas encore total pour la contraception. Mmh. Il y a encore un tas de modes de contraception qui ne sont pas remboursés. ou pas complètement.
C'est pareil, par exemple, ce n'est plus histoire de remboursement, mais il me semble qu'il a fallu beaucoup de temps pour que la femme puisse décider d'elle-même sans son mari qu'elle pouvait utiliser des contraceptifs ou encore avoir
mais la femme a longtemps, et via les lois, on le voit bien, été infantilisée énormément. Donc oui, jusqu'en 73, une femme ne pouvait pas ouvrir de compte en banque. 73, hein, 73. Oui. C'est quand même pas non plus...
Ça fait bizarre quand on le dit.
Ouais, c'est ça. Et donc, elle a été en permanence infantilisée, et y compris dans les lois. Par exemple, le fameux délai de réflexion autour de l'IVG qui vient juste d'être abrogé, hein, ça date de 2016, ce délai de réflexion, c'est vraiment une façon de considérer que la femme, elle n'est pas en capacité de faire des choix éclairés seule. Il lui faut un temps de réflexion. Nous, on milite vraiment pour que ça, tout ça cesse, quoi. Et qu'on considère d'abord, un, que l'IVG n'est pas un acte médical à part, et qu'il fait partie, voilà, des actes médicaux d'une structure hospitalière au même titre qu'une appendicite. Et en plus, que la femme, elle ne soit pas non plus réduite à un côté mineur, comme si, voilà, c'était quelque chose... qui était suffisamment compliqué, traumatisant, et qu'il lui faut du coup un peu de temps de réflexion.
Et la loi Veil disait que c'était à partir de 10 semaines, on ne pouvait plus recourir à l'IVG.
Oui.
Récemment, ça a changé, c'est passé à 12 semaines.
Ouais, enfin dans les années 80.
Pas si récemment que ça, en effet.
Dans les années 80.
Comment ce débat est-il construit ? J'imagine que c'est compliqué avec l'Église, par exemple, ou d'autres.
C'est ça. Là, on est encore dans ce combat-là. C'est-à-dire que là, je vois sur notre congrès national qui va avoir lieu début avril, il y a encore des groupes du planning qui militent pour que le délai soit encore rallongé. On est au même titre que l'Italie. C'est les mêmes délais qu'en Italie, mais il y a d'autres pays qui sont bien au-delà. Nous, on milite pour qu'on aille entre 16 et 20 semaines. L'Espagne, c'est 20, les Pays-Bas, c'est 20-22, ça dépend. Il y a d'autres pays qui l'ont pensé différemment. Nous, on est une société judéo-chrétienne et il faut faire aussi avec ça. Et donc, les délais, effectivement, ont bougé, mais pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, une petite dizaine d'années après la loi, ils ont été rallongés. Et déjà, même avec ces délais rallongés, nous, on est confrontés en permanence à des femmes et des jeunes filles qui sont en délai limite, ce qu'on appelle les délais limites. On a un pourcentage de ces femmes qui sont hors délai, pas de beaucoup. Et des fois, c'est quelques jours, et ces quelques jours suffisent à leur interdire les portes des CIVG en France. C'est plus du tout le même processus, quoi. Ça veut dire que d'abord, ça coûte plus cher. Il faut qu'elles aillent à l'étranger. Même si elles sont extrêmement bien accueillies sur place, et ben, c'est pas la même démarche, quoi. C'est pas très simple.
On parlait des jeunes filles, justement, des jeunes femmes. Alors, comment ça se passe pour ce type, imaginons, pour des mineurs ? Depuis combien de temps ce genre, entre guillemets, de personnes peuvent venir vous voir pour des questions d'IVG ?
Alors, ça fait très très longtemps, ça fait des dizaines d'années. Les mineurs, la loi leur dit qu'elles doivent être accompagnées d'une personne majeure, mais ça ne veut pas dire des parents. Et ça, c'est important de le dire. Ça veut dire que n'importe quel adulte majeur peut accompagner la jeune fille qui ne l'est pas. Nous, on le fait, par exemple. Quand une jeune fille vient et qu'elle a personne pour l'accompagner, c'est nous qui le faisons. Donc ça nous arrive fréquemment d'accompagner des mineurs. C'est important de le dire que c'est quelque chose qui n'apparaît pas non plus aux yeux des parents. Ça peut être quelque chose qui est de leur propre choix, qui est totalement anonyme. Aucune trace ne se retrouvera sur... Parce que souvent, il arrive qu'elle soit encore sur la carte de sécu des parents, ou mutuelle, enfin peu importe. Et bien évidemment, il y a de l'anonymisation et du secret sur cette intervention.
Et jusqu'où peut aller ce secret ? C'est-à-dire que si la personne est mineure, que ses parents viennent vous voir parce qu'ils se doutent de quelque chose ou pas ? Enfin, voilà.
Il n'est même pas question. Moi, j'ai été confrontée plusieurs fois à des parents qui venaient et qui me disaient « Je suis sûre que ma fille vient chez vous. » Ah bon ? Vous en êtes sûre ? Il faut peut-être lui poser la question, tout simplement. Mais en tout cas, nous, on ne dévoile absolument rien, évidemment. Mmh. On est dans un cadre de secret médical, hein. Donc, il n'est pas question de dévoiler ni les noms, ni quoi que ce soit aux parents ou à quiconque, d'ailleurs.
Après, est-ce que c'est toujours évident et est-ce que c'est respecté par tous dans votre profession, dans tous les plannings familiaux ? En règle générale, c'est quelque chose qui se...
C'est très, très important. Vraiment, c'est très, très important. Et puis, on reçoit... Alors, nous, en Rhône-Alpes, on rencontre par an 110 000 personnes, à peu près. et la moitié sont des mineurs. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, c'est quand même essentiel de dire que non seulement jusqu'à, alors chez nous c'est à peu près 20, enfin c'est 20 ans, il y a la gratuité jusqu'à 20 ans de tout ce qui est contraceptif dans les centres de planification, et y compris dans ceux qui ne sont pas gérés par le planning familial. Et surtout, il y a de l'anonymat.
Justement, vous parliez de centre de planification. Mmh. Alors Adi, nous, on a un centre de planification. Est-ce qu'il y a une différence entre centre de planification et planning familial ?
Alors, les centres de planification, donc ça fait depuis 1975, donc ça a été créé à peu près au moment de la loi IVG. C'est les conseils départementaux qui ont pour mission de favoriser sur leur territoire et d'implanter des centres de planification. Ils peuvent le faire directement eux-mêmes, donc ils ont des centres, ou ils le donnent en délégation. Alors, ils peuvent le donner en délégation à des mairies, à des associations. Et il se trouve que nous, en tant qu'association, on a pris en Rhône-Alpes une quinzaine de centres de planification. Les missions sont les mêmes, hein, qu'on soit conseil départemental ou planning familial. Sauf que planning familial, on est porté par des objectifs associatifs. On est une association d'éducation populaire. On travaille beaucoup sur l'aspect collectif des choses. Et donc, on a une petite, on va dire, particularité dans la façon dont on mène ces actions dans les centres de planification. On aime beaucoup, nous, les animations collectives dans les salles d'attente, autour de la contraception. Quand des jeunes filles viennent pour une première prescription, on les réunit ensemble. Des fois, il y a leur maman, des fois, il y a leur copain. Et ça échange. Et c'est une façon aussi pour elles de découvrir qu'elles en savent. Plus qu'elles ne le pensent sur la contraception. Entre elles, elles se corrigent, elles échangent, elles discutent. C'est assez riche, quoi.
Très bien. Et il y a aussi, il me semble, des projets avec des écoles, enfin des lycées ou collèges, qui peuvent venir dans ces centres de planification pour se renseigner avec les cours, tout ça, non ?
Oui. Il y a une loi qui inscrit le fait que de la maternelle au lycée, il doit y avoir 3 séances par an. Et par section. Donc vraiment, ça devrait être quelque chose de massif. Faute de moyens, souvent c'est réduit à quelques séances en quatrième, classe de quatrième, mais on est extrêmement sollicité, vraiment extrêmement sollicité. En Rhône-Alpes, dans le cadre scolaire, on rencontre à peu près 25 000 personnes par an. Donc c'est tout type de structure, c'est évidemment éducation nationale, primaire, collège, lycée. C'est aussi enseignement supérieur, c'est les missions locales, les maisons familiales et rurales. Ce sont aussi les centres d'apprentissage qui sont vraiment très concernés, les saisonniers. Enfin voilà, on est auprès d'une multitude de publics dans le cadre de séances qu'on appelle d'éducation à la sexualité. Alors ça, c'est le terme générique. Après, en fonction des établissements et des demandes, ça peut être plus thématique. Donc il y en a qui veulent travailler, certes sur la sexualité, mais qui complètent avec... des séances autour du sexisme ou de l'égalité filles-garçons ou du respect filles-garçons, parce que c'est forcément une problématique actuelle aussi. Parfois, on nous appelle comme des ambulances dans des établissements où il y a beaucoup de violence. Moi, je me souviens il y a quelques années, un établissement nous avait appelé en disant, voilà, c'était une infirmière scolaire. Je constate qu'il y a quand même beaucoup de grossesses chez les jeunes filles qui sont en formation chez nous. Et je me dis que ça mériterait qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu sur des situations tendues et ou problématiques qu'on est appelé. On n'est pas les seuls à intervenir en milieu scolaire. Il y a d'autres associations qui le font, mais c'est essentiel. Et puis surtout, on aime bien quand il y a une séance, des séances se passent chez nous, dans nos locaux, parce que ça dédramatise le côté je vais au planning, quoi. C'est-à-dire voilà, on a identifié les locaux, on a identifié les personnes, on sait que on nous a expliqué comment ça se passait quand on venait à titre individuel. Du coup, souvent les jeunes, on les retrouve plus facilement dans les salles d'attente quand ils ont eu une séance chez nous.
Ils ont déjà eu une première approche.
C'est ça,
en fait,
ce qui
permet.
Ce qui est essentiel.
Oui, de briser la glace,
ouais,
un peu encore.
C'est ça.
On parle beaucoup des jeunes filles parce que forcément l'IVG concerne plus les femmes que les hommes. Mais j'imagine qu'il y a aussi des hommes qui peuvent vous solliciter ou qui viennent pour des questions.
Tout à fait. D'abord, il y a ceux qui accompagnent les jeunes filles qui viennent assez régulièrement. Voilà, ils viennent en couple. Et puis il y a aussi des garçons, alors ils viennent pour d'autres types de questions, ils viennent pour des questions de dépistage, souvent. Ils viennent chercher des préservatifs et c'est l'occasion de discuter, d'échanger autour de leurs propres questionnements. Ils viennent plus en groupe que les filles, ils ont besoin de plus se soutenir pour venir entrer au planning. Oui, dépistage, VIH, questions autour de la sexualité, parfois... besoin d'avoir des réponses sur des peurs ou des angoisses par rapport justement à cette fameuse sexualité qu'ils ont vue à travers des films porno. Donc on n'est pas des lapins, on les rassure. Ça c'est les films, la réalité c'est tout autre. On a effectivement des garçons et on a aussi des papas qui viennent accompagner leurs filles ou qui appellent. Moi je vois dans les chiffres sur notre région que depuis 2-3 ans, il y a plus de garçons et plus d'hommes qui prennent contact avec le planning. Ouais.
Très bien. Donc, il faut le dire aussi, pour les personnes qui ne sont pas au courant, les préservatifs sont gratuits et
oui.
En accès libre.
Oui, tout à fait.
Et la plupart du temps, il me semble même que vous faites exprès, en quelque sorte, de les mettre à des endroits où personne ne voit trop.
On en laisse souvent dans les toilettes,
voilà,
en fait.
Pour garder aussi l'anonymat, justement.
C'est ça. Ça permet d'en prendre discrètement sans
être
vu.
Ouais,
c'est ça.
Oui,
c'est ça.
Est-ce que, par exemple, le sujet de la violence conjugale ou autre peut être aussi abordé avec vous ?
Oui, on est souvent limité, quand on parle de nous, on nous ramène tout souvent à la contraception et à l'IVG. Alors certes, c'était des combats essentiels des années 60, 70, 80, mais il y a plein d'autres sujets qui sont traités au planning et qui sont, nous font mener un certain nombre d'actions. Il y a évidemment les violences, alors tout type de violences, qu'elles soient des violences sexuelles, des violences conjugales, des violences, ce qu'on appelle intrafamiliales, et aussi des violences filles-garçons, dans un cadre, mettons, scolaire ou professionnel. Donc oui, on travaille énormément là-dessus. On est souvent d'ailleurs localement en lien avec des associations dont c'est la spécialité. On a aussi des groupes de parole pour des femmes victimes. Donc la question des violences, oui, est essentielle au planning. Et de fait, j'ai envie de dire, ce qui chapeaute l'ensemble, c'est toutes les actions autour de l'égalité. L'égalité filles-garçons, le travail sur les stéréotypes, évidemment. Alors ça, plus c'est tôt, mieux c'est. L'idéal, c'est d'intervenir même en maternelle sur lui vivre ensemble. On a toutes ces questions. On travaille aussi à l'international. On a aussi pas mal d'actions où des femmes sont formées, je pense au Sénégal ou dans d'autres pays, où elles sont relais d'une certaine manière, elles sont formées par nos équipes et après elles-mêmes vont décliner des actions localement, adaptées à leurs propres besoins. Donc là, on touche à tout ce qui est excision, enfin, violence faite aux femmes. On travaille aussi beaucoup avec les professionnels. Alors ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, former des professionnels, alors qu'ils soient de la santé, du social, de l'éducatif, les faire se rencontrer, les faire échanger, les amener à réfléchir sur l'accompagnement qu'ils font avec les plus jeunes ou avec leur public. Donc voilà, ça va de l'animateur de centre social au médecin généraliste de campagne, quoi. C'est vraiment, on essaye, donc on est organisme de formation pour ça. On organise beaucoup de sessions de formation et de rencontres interprofessionnelles aussi. Parce que c'est clé, quoi. Surtout dans dans région Rhône-Alpes, en dehors des grandes villes, c'est quand même la campagne. Hein. Enfin, on est à 10. donc, les professionnels, c'est essentiel qu'ils se connaissent sur le territoire. Parce que plus ils se connaissent et plus ils peuvent accompagner au mieux les plus jeunes.
Oui, travailler ensemble et
C'est ça. Ça peut être un pharmacien qui est très engagé. Nous, ça nous arrive de travailler avec des pharmaciens qui vraiment développent dans leur officine un lieu à l'abri pour pouvoir échanger, discuter, donner de l'info en toute confidentialité. Il y a plein de choses qui se passent, en fait, avec tous ces gens sur le terrain. Et qui sont pour nous essentiels et des relais, quoi, vraiment.
Très bien. Dans vos locaux, il me semble qu'on peut trouver toutes sortes de spécialistes, entre guillemets. Il y a des médecins, il y a des assistantes sociales. Donc il y en a vraiment aussi pour tous les problèmes. On peut venir, femme peut venir au planning familial, même pour un frottis, il me semble, gratuit.
Oui, tout à fait. Le centre de planification, en fait, ne fait pas que délivrer du contraceptif et accueillir dans des demandes d'IVG. Ou d'autres questions, violences, etc. C'est effectivement des équipes qui sont pluridisciplinaires. Donc il y a des conseillères conjugales et familiales qui sont vraiment les personnes qui vont accueillir et renseigner en premier lieu. Et puis il y a évidemment des médecins. Et en fonction des lieux, il y a différents autres types de professions. Donc il peut y avoir des infirmières, il peut y avoir effectivement des assistantes sociales. Les équipes travaillent vraiment ensemble. C'est vraiment des équipes qui bossent ensemble. Et ça permet effectivement de prendre en charge. Alors les jeunes filles, elles se font suivre généralement sur la globalité de l'aspect gynéco. Donc oui, des frottis sont possibles, évidemment. On est en accord aussi avec des laboratoires, donc elles font aussi toutes leurs analyses et c'est également gratuit. Ça fait partie de la prise en charge des centres de planification.
À n'importe quel âge,
c'est jusqu'à 20 ans. Plus les personnes qui sont sans papier, ou on va dire les personnes en grande précarité, donc qui sont vraiment en difficulté. Et là, il y a une prise en charge qui se fait automatiquement gratuite.
Très bien. Et donc tout ça nous amène aussi à un sujet clé, hein, une campagne qui s'appelle la campagne Simone Forever.
Et oui.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter
les Simones?
Les Simones, tout à fait.
Les Simones. Oui, sur ces 60 ans, il y a plein de femmes qui ont été des grandes figures du planning et puis plus globalement, on va dire, des droits des femmes, qui ont vraiment porté auprès de l'État leurs convictions pour que les lois évoluent, qui ont écrit énormément de choses, qui se sont battues. Et au milieu de toutes ces personnalités, il y a trois Simone qui ressortent. Donc il y a Simone de Beauvoir, bien sûr, qui... par ses écrits, son engagement, son militantisme, a énormément accompagné le monde des femmes, le droit des femmes et l'égalité. Il y a Simone Veil, évidemment, sur la question de l'IVG, qui a été, quand on regarde d'ailleurs ses discours à l'Assemblée, Assemblée d'hommes, hein, elle était quasiment la seule. Waouh, elle avait un sacré courage de monter à la tribune et d'affronter... ces regards qui, les discours qui étaient tenus par les anti étaient complètement incroyables. Et puis la dernière, elle est moins connue, c'est Simone If. Alors Simone If, c'est une militante du planning, elle a fait partie des fondatrices du planning familial. Elle a fondé le MLAC, le fameux MLAC, qui est le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui est un gros mouvement avec lequel on travaille toujours. Et donc elle a été aussi présidente nationale du planning familial. Jusqu'en 81, me semble-t-il. Ces trois Simone, elles ont vraiment jalonné la vie du planning. Elles ont été porteuses d'espoir et de conviction. Et donc, on s'en réfère beaucoup à ces trois Simone. Donc, c'était l'occasion, 60 ans après, de se dire que c'était bien de leur rendre hommage avec cette campagne qui s'appelle Simone Forever. Et ce qui nous permet d'ailleurs de rappeler que le planning familial n'est pas un service public, on n'est pas des fonctionnaires. On est vraiment une association privée et à ce titre-là, les gens adhèrent au planning familial, versent une cotisation. Et c'est pour nous essentiel parce que les cotisations sont vraiment ce qui fait la force d'une association, le nombre d'adhérents. Et on en a en permanence besoin et donc via cette campagne, on lance effectivement une grande campagne d'adhésion autour de Simone Forever, mais vraiment histoire de rappeler que voilà, on est souvent assimilé à des services publics parce qu'on a des centres de planification, parce que parfois on a des permanences dans des hôpitaux, mais non, on n'est pas du tout public.
Et donc pour adhérer justement au planning familial, comment fait-on ?
Le plus simplement possible. C'est assez simple, c'est se rapprocher de l'association de son département parce qu'on est à peu près dans tous les départements. Dans la Drôme, le siège est à Valence, mais le planning de la Drôme a quatre lieux différents. Donc Romans, Valence, Dieulfi, Die, plus une permanence à Bulle et Baronnie. Donc ça fait quand même cinq lieux. On peut se rapprocher de n'importe lequel de ces centres et tout simplement adhérer. Donc il y a une adhésion qui est relativement peu onéreuse. Elle est à 16 euros et il y en a même une demi-tarif en fonction de sa situation. Et après, on reçoit assez régulièrement des nouvelles via des newsletters ou des revues de presse, ce qui permet de garder le lien avec le planning. Et on est invité évidemment à tout ce qu'on... Dès qu'on fait une manifestation, donc là, il va y en avoir quelques-unes en 2016 autour des 60 ans. C'est très simple d'adhérer au planning. Et on est invité à l'Assemblée Générale.
Donc vous parliez de la Drôme, moi j'ai vu une pétition qui tournait sur internet qui parlait de 9% de subventions en moins dans la Drôme, ainsi que la mairesse de Valence, il me semble, qui voulait fermer une antenne ou une histoire comme ça. Est-ce que vous en connaissez davantage sur cette histoire ?
Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections et que nous avons donc changé de couleur politique dans la Drôme. Les nouvelles, décisions budgétaires ont mis à mal tout ce qui est budget alloué à la jeunesse et à l'éducatif. On rentre dans cette ligne-là, nous. Effectivement, il y a une baisse de financement relativement importante qui a obligé à réduire du temps de travail. Et réduire du temps de travail, c'est réduire du temps d'accueil. On ne peut pas en dire plus que
ça. Ça pénalise au final les jeunes filles, les jeunes hommes, même plus âgés.
Très clairement. Très clairement. C'est-à-dire que une baisse de financement, quoi qu'il arrive, ça met en difficulté les permanences d'accueil, donc les temps d'ouverture de nos lieux. Donc il y a une pétition en ligne pour le planning de la Drôme. Et c'est vrai qu'on essaye, à l'échelle nationale, échelle régionale et départementale, d'avoir un devoir de vigilance par rapport à ça et de transcrire ces baisses par ce que ça veut dire en termes de ce qu'on ne fera pas, quoi. C'est-à-dire que voilà, pour que ça parle au public, il faut qu'on leur explique qu'effectivement, voilà, dans la Drôme, s'il y a 15 000 personnes rencontrées par an, ça veut dire que peut-être là, en 2016, il n'y en aura plus que 10 000 parce qu'il y aura beaucoup moins d'heures d'ouverture. Et 5 000 personnes qui restent, qui ne peuvent pas être reçues, c'est autant de situations compliquées. Surtout dans des départements, encore une fois, où l'offre est moins importante, où il y a moins de possibilités de bouger, d'aller justement auprès des structures qui peuvent accueillir. Et ce n'est pas, pas si évident que ça, quoi. Il y a des endroits, enfin, si on sort de Montélimar, de Valence, c'est quand même la campagne. Hein.
Étant ici, s'il n'y avait pas d'antenne à Die, ce serait peu compliqué quand même. Et en plus, comme vous disiez, ça ne touche pas que le centre de planification ou que le planning familial, ça touche aussi les espaces jeunes, sociaux et culturels, etc. Donc c'est vraiment une menace.
Tout ce qui est dédié à la jeunesse, à l'éducatif, les éducateurs spécialisés, enfin voilà, et tout le monde est dans la même enveloppe budgétaire. Et en 2009, on avait eu aussi, à l'échelle nationale, une très très grosse menace de baisse de financement, mais qui était vraiment très très importante. Et on est monté au créneau très très vite. Alors l'avantage qu'on a quand on s'appelle planning familial, c'est qu'on fait partie du patrimoine. C'est-à-dire que tout le monde a une histoire personnelle avec le planning familial, que ça soit à titre individuel, personnel, ou parce que ça, à une époque, on connaît quelqu'un, on accompagnait quelqu'un, on avait sa fille, on avait sa sœur, enfin bref. Ça fait partie un peu de la mémoire collective, le planning, dans l'histoire des gens. Et en plus, sur des questions intimes, c'est d'autant plus fort. Et donc quand... Et en 2009, on a eu cette menace. Immédiatement, il y a des choses qui se sont mises en route au niveau, sur le territoire, de protection du planning. Et en fait, très rapidement, on s'est monté jusqu'à l'État, quoi. Et on a été, on a pu comme ça préserver nos financements. Mais préserver nos financements, c'était, il n'y avait pas que nous qui étions concernés par cette baisse, hein, évidemment. On a servi aux autres aussi. Et surtout, ça a permis de maintenir l'activité, et en particulier ces lieux qui ne sont pas centres de planification, qui sont juste établissements d'information, qui eux bénéficient directement de ces sommes qui allaient être supprimées en 2009.
On en vient à la question que tout ce qu'on a acquis aujourd'hui, toutes les lois qui sont passées, peuvent encore, même aujourd'hui, être en danger et sont en danger.
Complètement, complètement. C'est intéressant parce que une des Simone de Beauvoir, quand la loi sur l'IVG est passée, elle a une phrase et qui doit rester en tête, c'est-à-dire qu'elle a expliqué que c'est une victoire évidemment, mais qu'il ne faut pas oublier qu'en période de crise, les premières qui subiront, qui seront pénalisées, seront les femmes et ce seront les droits des femmes. Donc on a un devoir de vigilance et elle nous avait amené à avoir un devoir de vigilance. Et ce devoir de vigilance, on l'a encore plus aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui se passe, comment la société évolue, comment les mouvements... Alors les mouvements anti-IVG, on les connaît, mais des mouvements catholiques, intégristes, arrivent à faire du lobby auprès des politiques, Parlement européen, etc. Oui, le devoir de vigilance, il est extrême, là, extrême. Y compris localement, où on doit être vraiment préservé ces droits-là, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit encore une fois les femmes qui trinquent, quoi.
Aussi peut-être des partis politiques qui peuvent poser un peu problème.
Clairement. On a été suffisamment interpellés, nous, par la famille Le Pen au fil des années. Alors là, cette année, on nous a traités d'associations politiques. Alors c'est amusant parce que je pense que la nièce Le Pen a un petit problème de vocabulaire et de définition. On n'est pas politique du tout. On est politisé, ce qui n'est pas tout à fait... On est politique, pardon, et pas politisé. J'allais dire en plus l'inverse. Oui, on est un mouvement politique dans le sens où on fait partie de la société et qu'on défend les droits des citoyens. On n'est pas politisé parce qu'on appartient à aucun parti et clairement, on n'appartient à aucun parti.
Très bien.
On a toujours travaillé avec tous les partis en place. D'abord parce qu'il y a des femmes dans tous les partis aussi et que ces droits-là et ces acquis-là sont importants pour tout le monde. Et puis, on n'a jamais eu de difficulté plus que ça à discuter avec des partis politiques. Après, certains partis politiques, comment dire, quand on entend parler d'IVG de confort, par exemple, moi j'ai envie de dire aux gens qui disent ça, ok, il y a 200 000 IVG par an, mais ça veut dire 200 000 femmes, 200 000 histoires. Alors on ne peut pas réduire l'IVG à une IVG de confort, parce que 200 000 histoires, c'est 200 000 histoires individuelles. Et donc ne faisons pas de généralité sur 200 000 histoires, quoi, c'est pas possible, ça n'existe pas.
Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Bon, on va faire une petite pause musicale en restant dans le thème de Simone Forever. On va écouter du Nina Simone. Oui. Ain't got no, voilà. À tout à l'heure.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends,
on se retrouve avec Véronique Giraud-Allemand pour parler du planning familial. Alors, on va maintenant vous présenter le calendrier 2016, donc les dates importantes qui se passent avec la campagne Simone Forever. Donc, je vous écoute.
Alors, il y a eu plusieurs dates déjà, en particulier autour du 8 mars, parce qu'en plus, c'était la date anniversaire. Donc, en particulier, il y a eu un gros spectacle à La Cigale avec un certain nombre d'humoristes le 7 mars. La prochaine date, c'est le 1er avril à Grenoble. Donc là, c'est vraiment, on est au berceau du planning. Il se trouve que nous, on enchaîne le 2 et 3 avec le congrès, notre congrès national. Donc, il y aura à peu près sur Grenoble, le premier, 200, congressistes planning familial qui viendront de partout, de toute la France, des DOM, des TOM, enfin voilà, d'un peu partout. Donc c'est l'occasion tous les 3 ans de se retrouver tout ensemble, tous et toutes ensemble. Et puis après, tout au long de l'année, on va continuer à avoir des événements plus locaux. Donc dans la Drôme, il y en aura certainement. Voilà. Après, il faut suivre un peu l'actu dans les journaux, les choses comme ça. On va fêter toute l'année nos 60 ans.
Fêter aussi avec des luttes, j'imagine, peut-être des manifestations, des regroupements de personnes.
Bah, il se trouve que le climat social n'est pas très, pas très calme. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait des choses qui se passent. J'ai pas de vision pour l'instant du reste de l'année. Je sais qu'il y aura forcément en région des choses qui vont se passer autour des 60 ans du planning. Voilà, on a aussi changé de conseil régional, donc qui était un partenaire privilégié parce qu'on travaille avec depuis 10 ans avec les publics spécifiques conseil régional, c'est-à-dire tout ce qui est apprenti, les lycées, les missions locales, etc. Et qu'on a mené beaucoup d'actions. Là, on est un peu en questionnement par rapport à la politique à venir. Et puis surtout, on a l'Auvergne. On n'est plus que Rhône-Alpes. Donc, on a aussi nos collègues auvergnates. Donc, finalement, on risque, courant de l'année, de faire quelque chose, on va dire, plus Rhône-Alpes-Auvergne, un peu festif pour ces fameux 60 ans. À suivre.
Bah oui, et d'ailleurs, si on veut vous contacter ou voir les actualités, ce qui se passe un peu, ce qu'il y a de prévu, vous avez un site internet.
Oui, on a un site internet qui est le planning. Alors, on en a plein de sites internet autour du planning. Il y a le national, bien sûr, tout simplement, planningfamilial.org. Mais on en a aussi un en région, en Rhône-Alpes. Et là, vous avez les coordonnées de tous nos lieux. Parce que sur les 8 départements Rhône-Alpes, on est présent sur 6. Et sur ce site internet, donc c'est, je crois, le planning Rhône-Alpes. .fr.org, enfin dans ces eaux-là, mais il est facile à trouver. Et il y a surtout les coordonnées de tous les lieux où on est présent, les téléphones, les horaires d'ouverture, parce que c'est essentiel de trouver l'info assez vite. Et c'est sur ce site qu'on met, justement, on a des unes d'actu. Et donc, au fur et à mesure qu'il se passe des choses, on alerte, on prévient via notre site. Et on a une page Facebook aussi.
C'est ce que j'allais dire pour les accros aux réseaux sociaux.
Voilà, planning familial Rhône-Alpes. Voilà.
Il y en a un pour la Drôme aussi, où circule la pétition d'ailleurs.
Voilà. Ah non, il y en a partout. C'est vrai que on est un peu, un peu partout.
Si on vous cherche, normalement, on vous trouve.
Ouais, ça serait bête de ne pas nous trouver.
Il me semble aussi qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un numéro de téléphone d'urgence qui a été créé.
Il n'a pas été créé. C'est le numéro vert national contraception IVG. Depuis 2000, donc ça fait 16 ans, qu'il existe des plateformes régionales, nous on en avait une, on en a toujours une d'ailleurs. Et en fait, cette plateforme s'est transformée et maintenant fait partie du numéro vert. Donc elle était déjà opérationnelle depuis 2000 chez nous et un peu partout. Effectivement, c'est un numéro hyper important que je n'ai pas en tête, mais que sans doute vous avez.
Oui, tout à fait. C'est le 0800 08 11 11.
Voilà, alors ce numéro, il concerne toutes les questions de sexualité, de contraception, de violence, de dépistage, d'IVG. Il permet aux personnes qui appellent d'avoir surtout d'être orientées sur des lieux de proximité par rapport à là où elles habitent. Et c'est essentiel, par exemple, pour une femme qui veut faire une IVG et qui n'a pas connaissance, et voilà, ce qui est normal de ne pas connaître les lieux ressources. Elle appelle ce numéro et elle est orientée soit vers un médecin de ville si elle fait le choix d'une IVG médicamenteuse, soit vers un CIVG ou vers des antennes du planning familial. Et ce numéro, il est ouvert le lundi de 9h à 22h, 9h22, et du mardi au samedi de 9h à 20h.
Très bien, voilà. Ce qui fait quand même une grande heure d'écoute une grande disponibilité.
Il n'y a que le dimanche et les jours fériés où on n'est pas derrière le téléphone.
Ce qui est aussi normal.
Oui, aussi.
Vous êtes une association, comme vous l'avez répété. Oui. Donc voilà, en parlant d'association aussi, pour ceux et celles qui veulent militer à vos côtés.
Alors, je les invite, hommes et femmes, alors hommes aussi, parce qu'évidemment, enfin, on échangeait hors micro, mais c'est vrai que vouloir transformer une société avec que la moitié de la société, ça ne peut pas marcher. Donc, on a évidemment besoin aussi d'hommes qui militent à nos côtés, avec nous. Et le plus simple, eh ben, c'est d'aller à la rencontre du planning familial le plus proche de chez soi. Donc, comme je vous disais, sur la Drôme, il y a 4 lieux, 5 lieux, des téléphones, des mails, des sites, voilà, et donc c'est facile de nous joindre. À partir de là, on rejoint une équipe, donc qui est composée et de salariés et de militants bénévoles. Et puis il y a toutes sortes d'actions qui sont menées ensemble, voilà, c'est C'est plutôt, on va dire, convivial.
Très bien. Donc voilà, pour les militants, militantes, et surtout militants, je pense qu'on l'aura jamais assez dit.
C'est ça.
Et ça ne concerne vraiment pas que les femmes.
Et oui.
Pas simplement féminin.
C'est ça.
Merci à vous de vous être déplacés jusqu'à Die.
Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli.
Et puis voilà, une prochaine fois peut-être.
Merci beaucoup.
L'interview du jour.